Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Célébrons le patriotisme des FARDC. C'est avec ce thème que la journée nationale des FARDC a été célébrée hier 17 mai en Ituri, occasion pour les jeunes volontaires inscrits au sein de la réserve armée de la défense nationale RAD de réaffirmer leur engagement à soutenir les FARDC et à défendre la paix. Présentation hier à Kinshasa du dispositif électronique fiscal conçu par le génie scientifique congolais. C'est le ministre de la Recherche scientifique qui l'a présenté au ministère du portefeuille. Il s'agit de rendre orthodoxe la gestion des finances en général en RDC. Et puis, ce midi, nous recevons le professeur Grison Kakumbi, directeur du laboratoire de la philosophie du droit de l'éducation et du numérique du département de philosophie de l'université de Kisangani. Il nous parle de la question d'orientation des enfants en rupture familiale. Madame, Messieurs, bonjour. Les jeunes volontaires inscrits au sein de la réserve armée de la défense nationale RAD en Ituri réaffirment leur engagement à soutenir les FARDC et à défendre la paix. Ils l'ont dit hier samedi à Bounia au cours de la célébration de la journée du 17 mai dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi les différentes activités organisées à cette occasion, une conférence débat au cours de laquelle les autorités provinciales, des élus provinciaux ainsi que des officiels de l'armée appellent les jeunes à cultiver l'amour de la patrie. Ézéchiel Mouzalia a pris part à cette rencontre. Voici son reportage.
La journée nationale des forces armées de la RDC a été célébrée en Ituri, entre autres à travers une conférence débat sous le thème « Célébrons le patriotisme des FARDC ». Une occasion de mettre en avant la bravoure mais aussi le sacrifice suprême de ces soldats tombés au front devant l'ennemi au nord et au sud Kivu. Fier de faire partie des réservistes en Ituri, Espérance Mungufeni s'est dit prête à mettre tout son savoir au service de l'armée.
Ma détermination c'est de servir mon pays sous les drapeaux. J'ai déjà eu à servir les pays comme formatrice à l'université. Toutes ces connaissances que j'ai acquises, il faut aussi partager cette connaissance avec les FARDC. L'armée, c'est vraiment une grande entreprise qui a besoin de beaucoup d'expertise.
Pour le coordonnateur de la RAD en Ituri, il est important de raviver l'esprit patriotique au sein des forces armées de la RDC, le colonel Emmanuel Libandi.
Le patriotisme, ça demande des sacrifices. En face de nous, l'agression là, vous allez voir que non, on fait face par rapport à notre patriotisme, à notre jeunesse, de venir adhérer à la RAD, qui puisse devenir des véritables réservistes.
Le représentant du bureau de l'Assemblée provinciale à cette activité appelle les jeunes qui ont pris les armes contre leurs frères à intégrer l'armée pour servir utilement le pays. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au sud Kivu, pendant ce temps, un détournement des fonds destinés à la paix du solde des militaires FARDC est signalé à Uvira. Le lieutenant-colonel présumé détourneur est en fuite. Le commandement de la 11e brigade au sein de laquelle l'incriminé prestait en qualité du chargé de la paix lance un avis de recherche. Alain Roumouchinge nous en parle.
Le montant exact de la somme détournée n'est pas déterminé, mais le communiqué signé par le commandant de la 11e brigade annonce qu'il s'agit d'une enveloppe destinée à payer le solde des militaires au front dans la partie sud de la province du Sud Kivu. Dans un fax émis par le commandant brigade destiné aux différents chefs des unités militaires dans la région, il est demandé à quiconque verrait le colonel incriminé Nkulu Kilenge Delphin de l'arrêter et l'acheminer à l'auditorat militaire le plus proche. Sa fuite a été constatée avant le lancement de l'opération de paix. Le porte-parole des opérations Sukola Sud-Sud n'a pas voulu commenter ce détournement. Il s'est tout simplement limité à confirmer la véracité des faits sans en dire plus. Trois jours auparavant, le chef d'état-major général des FARDC, en mission à Uvira, avait félicité et encouragé les autorités politiques et militaires pour la résistance affichée envers les rebelles de l'AFC M23.
Dans l'actualité aussi, les activités paralysées depuis deux jours sur l'axe Mangureji-Panja-Panda dans le territoire de Beni au nord Kivu. Cette situation fait suite à un mot d'ordre de la synergie des structures locales de la société civile en signe de protestation contre l'insécurité persistante dans la région. Selon les organisateurs de ce mouvement, l'activisme accru des groupes armés ces dernières semaines a causé la mort de plusieurs civils et sémé la panique dans la population. La société civile appelle les autorités à agir rapidement pour rétablir la sécurité dans la zone. Samuel Kaini, porte-parole de la synergie de la société civile de Mangureji Panja Panda, insiste sur l'urgence d'une réponse concrète de l'État. Il est joint par Martial Papi Mukeba.
Nous remercions la paisible population pour leur souci, leur détermination, engagement, à réclamant ce dont ils ont droit, la paix. Nous n'avons pas autre chose. Nous avons seulement à demander, à réclamer les droits, et notre droit qui est la paix dans notre zone. Et c'est là qu'ils ont ce mandat de nous protéger. Ce sont les services de sécurité d'abord, et aussi nous avec eux, automatiquement nous puissions contribuer à cette sécurité.
Nous n'avons pas encore la réaction des autorités militaires. Les détails en synthèse fournis par le récent rapport de l'Institut de recherche Ebouteli sur le phénomène Oazalendo sont provocateurs et manipulés de l'extérieur par les réseaux de prédation. C'est la réaction de Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Nord Kivu, expert en désarmement et en droit international humanitaire, qualifiant ce rapport de tendancieux. Selon lui, la loi instituant la réserve armée de la défense, RAD, dont il dit être l'auteur, détermine toutes les modalités et les conditions de fonctionnement des Oazalendo qui ne constitue en aucun cas une bombe à retardement. Didier Bitaki l'a dit à Grace Amzati.
Je voudrais poser la question à cet institut. S'il est possible que quelqu'un soit cloué au lit alors qu'il a le moyen de se défendre lorsque sa maison est attaquée. Ce sont des citoyens congolais. Qu'ils soient des anciens membres des groupes armés ou quoi que ce soit, le mot Oazalendo a été prononcé par un général kenyan qui dirigeait la force de l'EAC. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne s'appelaient pas Maïmaï par le passé. Et pour cela, ce sont ces Maïmaï-là, répondant à l'appel du chef de l'État, qui ont été regroupés et ont fait leur adhésion personnelle, sans qu'ils y soient contraints, à la réserve armée de la défense. Personne ne peut obliger la République de définir les critères des personnes qui doivent défendre le pays lorsque l'État se retrouve, la nation se retrouve en danger et agressée par une puissance extérieure. La loi définit à la fin de la guerre ce que deviennent ces citoyens. Le gouvernement congolais a prévu des processus par lesquels doivent passer ces gens qui ont pris les armes. Il y a un processus mis en place de désarmement spécifique de personnel et de la réserve armée de la défense. La loi prévoit que ces gens-là retournent dans leur vie quotidienne, dans leurs activités quotidiennes. Est-ce que ce groupe respecte au moins la législation congolaise?
Sachez que Didier Bitaki réagit ainsi face au rapport publié hier par vendredi par l'Institut de recherche Ebouteli qui a affirmé que l'une des motivations du phénomène Oazalendo est la possibilité d'accéder à des financements et à des postes au sein de l'armée nationale et éventuellement de garantir l'impunité pour leurs crimes passés. Ebouteli estime que le soutien aux groupes armés locaux constituera une lourde hypothèque politique pour les années à venir. À Kalemie, signalons la mise en place d'un dispositif d'alerte précoce pour lutter contre toute violation ou abus commis par les éléments de la police. Ce dispositif est l'œuvre du consortium composé de l'OIM, le PNUD et le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme dans le cadre du projet de gouvernance sécuritaire et inclusive financé par le Fonds de consolidation de la paix. Vendredi, un numéro vert a été mis à la disposition de la population. Écoutez à ce sujet le chef du bureau en charge d'analyse à la division provinciale du plan du Tanganyika, Augustin Kasuku, dans ses propos recueillis par Paula Munanga.
Le projet de mettre en place un système d'alerte précoce au sein de la police qui sera géré par l'inspection générale de la police. Il y a une semaine que ce système a été mis en place et aujourd'hui je vous parle, un numéro vert est disponible. Le numéro vert a été communiqué. Dans les jours qui suivent, une commission sera dépêchée sur terrain pour pouvoir sensibiliser la population par rapport à l'utilisation adéquate de ces numéro vert. Vous savez, l'IGPNC a pour mission de contrôler, suivre et de documenter les cas d'abus commandités par les policiers. Alors, la population est appelée à pouvoir pratiquement dénoncer tout cas d'abus pour que l'IGPNC s'inspire et arrive à prendre des mesures adéquates.
Je vous le disais en titre, le dispositif électronique fiscal conçu par le génie scientifique congolais a été présenté hier samedi au ministère du portefeuille. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, qui a procédé à cette présentation. Ceci intervient 3 semaines après la validation de ce dispositif par la Chambre haute du Parlement. En effet, c'est le souhait du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, de rendre orthodoxe la gestion des finances en général en RDC. Explication avec vous, Jacques-Yves Molima.
Dans sa présentation, le ministre de la Recherche scientifique a exprimé le souhait de voir les entreprises revenir à la période d'avant 1960 où elles faisaient la grandeur du Congo belge avec un produit intérieur brut de 1 400 $ américains par habitant supérieur à 400 $ d'aujourd'hui. Et Gilbert Kabanda a spécifié.
Il n'y a que par cette voie-là que le Congo va introvertir son économie, va diversifier son économie et va reprendre sa place d'antan comme leader de l'économie de l'Afrique.
Pour sa part, le ministre Jean-Lucien Boussa s'est déclaré disposé à établir une feuille de route en vue d'appliquer ce dispositif fiscal. Objectif affiché, gagner en efficacité, en transparence et en orthodoxie.
Là, nous sommes en face de cette innovation qui nous permet d'améliorer la gestion, d'améliorer la qualité de l'information et de faire de la transparence de la gestion des entreprises un levier important.
Prochaine étape, le ministre Gilbert Kabanda attend que ses collègues qui ont reçu l'une ou l'autre invention du génie scientifique congolais l'invitent à venir expliciter comment ils peuvent se l'approprier dans la vie socio-économique de la RDC.
L'actualité, c'est aussi le séjour à Kindu depuis le vendredi 16 mai d'une délégation de la Banque mondiale et du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances. Après leur civilité à l'autorité provinciale, le chef de la délégation fait savoir qu'ils sont allés appuyer la province du Maniema dans la réforme des finances publiques et cela sur demande du gouvernement Moussa Kabwankubi Moïse. Godefroy Midenga, secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, le dit au micro de Florence Kizalunga.
Donc, nous sommes venus ici après que nous ayons eu les contacts préliminaires à Kinshasa avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sur la possibilité d'étendre les activités du projet encore dans la province du Maniema. Les domaines les plus importants sur lesquels on va agir, c'est celui de capacité de mobilisation des recettes. La province a un potentiel fiscal important. Le Maniema, c'est une province agricole, minière, environnementale. Il y a beaucoup de choses dans cette province, mais la province ne profite pas de ce potentiel. Le premier domaine sur lequel on va agir, c'est permettre à la province d'accroître la régie provinciale, bien sûr, à travers le leadership de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, faire de telle sorte que la régie provinciale accroisse ses capacités de mobilisation de recettes. Le deuxième domaine important sur lequel on va agir, c'est celui qui consiste à améliorer la qualité de la dépense. Parce que, comme disait un auteur, la pauvreté, c'est pas souvent ce que nous gagnons. La pauvreté, c'est aussi la manière dont on dépense l'argent. Donc, on va aider aussi la province à améliorer la gestion budgétaire, la chaîne à dépense, la préparation du budget, les principaux outils de régulation budgétaire et les trésoreries, le marché public aussi, la gestion de la trésorerie et la gestion comptable.
Autre nouvelle, le président du mouvement pour le renouveau MR, Clément Kankou, appelle le chef de l'État à consulter personnellement les opposants majeurs du pays afin de réfléchir ensemble sur les problèmes de la RDC dans l'agression rwandaise et y trouver des solutions. Cet ancien ministre et député honoraire élu de Dibaya au Kasaï central l'a dit hier samedi 17 mai au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, tout en invitant aussi ses leaders politiques à briser la méfiance. Clément Kankou estime que pour le moment, c'est la paix et l'unité qui comptent au-delà des ambitions politiques. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Nous sommes dans un problème d'agression et nous demandons au chef de l'État qu'il ne se laisse pas entraîner dans la distraction avec tout ce qui vient à gauche et à droite. Nous avons proposé que le chef de l'État puisse consulter les leaders politiques de l'opposition, ceux dont la voix compte dans ce pays. On le voit ailleurs, quand il y a des enjeux importants en France, Macron n'hésite pas d'inviter Madame Le Pen, d'inviter M. Mélenchon, qui sont ses plus grands opposants. Donc, si demain le chef de l'État peut inviter au Palais de la Nation M. Fayulu, M. Katumbi, même la famille politique du FCC, pour parler des problèmes de ce pays, ça sera déjà un bon début. Et nous avons proposé qu'à l'issue de ces consultations, qui ne sont pas à confondre avec les consultations politiques qui ont abouti tout simplement à une demande d'emploi de plusieurs politiciens, mais tout simplement pour rechercher la paix, on peut organiser une conférence nationale sur la paix pour permettre aux Congolais de se parler, de donner des propositions. Nous demandons aussi à ces leaders politiques de mettre le Congo en avant, de mettre les ressentiments de côté. Les élections sont passées, les prochaines c'est en 2028. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de préserver l'unité de ce pays, qu'on se mette ensemble dans l'unité nationale, qu'on regarde dans la même direction et qu'on puisse briser les barrières de la méfiance et de la frustration.
Actualité internationale. Premier bain de foule et hommage à Saint-Pierre. Une grande messe solennelle ce dimanche à la place Saint-Pierre de Rome, en présence des dizaines de milliers de fidèles et de 200 délégations du monde entier, marqueur de cette journée d'inauguration du pape Léon XIV. Cette journée symbolique pour le nouveau pape a commencé par le tour en papa mobile. Avant la messe, Léon XIV est descendu sur la tombe de Saint-Pierre, située sous l'autel principal de la basilique, pour s'y recueillir, accompagné des patriarches des églises orientales.
L'invité.
Le laboratoire de la philosophie du droit de l'éducation et du numérique du département de philosophie de l'université de Kisangani prône l'éducation des enfants en rupture familiale dans la rue. Professeur Kakumbi, directeur de ce laboratoire, est notre invité. Il nous parle de la question d'orientation de ces enfants en rupture familiale. Il est avec Jacques Moukonkole.
Professeur Grison Kakumbi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce qui justifie le rassemblement de ces enfants de la rue ici à la place des martyrs?
Spécialiste en philosophie du droit de l'éducation de l'enfant en contexte des conflits en RDC, notre laboratoire travaille depuis un temps dans l'identification des enfants en rupture familiale, communément appelés enfants de rue, et afin de savoir quelles sont les raisons qui poussent ces enfants dans la rue, comment ils vivent dans la rue. Et après notre échange dans mon laboratoire avec les chercheurs, notamment de la ville de Kisangani, du pays et de l'extérieur, il s'est avéré que l'approche de prise en charge des enfants de la rue dans la rue reste l'approche incontournable, sans quoi nous risquons de ne pas toujours mettre fin à cette attitude ou à ces phénomènes qui marginalisent l'enfant.
Et alors, selon votre expérience, comment pouvez-vous prendre en charge ces enfants? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour eux dans la rue?
Ce que nous avons toujours fait et que vous le remarquez avec notre équipe, nous prenons en charge médicalement ces enfants. Ce qui veut dire parmi eux, si vous regardez sur les centaines qui sont là, au moins 90 sont des plaies. Ils se battent régulièrement ou bien suivant les intempéries, ils connaissent justement des problèmes. Comment vous pouvez comprendre qu'un enfant, la fillette là, qui a 8 ans, qui prend justement des diazépans régulièrement? Et donc la prise en charge médicale, c'est aussi l'apprentissage de l'hygiène, qu'ils apprennent à rincer les dents, qu'ils apprennent quand même à utiliser les bandes hygiéniques pour les filles. Les fillettes, celles qui sont tombées enceintes, comment on peut les accompagner dans ces peines pour éviter justement que cet enfant en accouchant, cette fillette puisse aussi, elle aussi, perdre la vie. Voilà, ça c'est un aspect, l'aspect santé. Deuxième aspect, c'est aussi l'aspect éducation. Dans l'aspect éducation, il y a des volets. Il y a l'éducation formelle où on leur apprend à lire et écrire, mais aussi pour ceux qui veulent des métiers, on les oriente justement à pratiquer des métiers pour que demain, ils apprennent quand même à faire quelque chose d'important.
Professeur, est-ce que dans la rue, on peut assurer cette instruction de manière efficace?
Ce qui est vrai, la rue ne serait pas le lieu privilégié réellement d'instruire. Mais étant donné qu'il y a déjà un problème où l'enfant se retrouve dans la rue, 2 ans, 4 ans, il est dans la rue, puisqu'il ne peut pas aller à la maison, nous pensons d'abord donner le minimum à la maison, avec l'idée que demain ou après-demain, s'il peut participer à l'éducation formelle, ça peut encore nous arranger. Nous sommes en train de résoudre un phénomène qui préjudicie les droits de l'enfant, mais on s'adapte avec l'intention de ramener de l'éducation informelle à l'éducation formelle.
Ce travail est déjà fait dans les centres comme le centre Saint-Laurent par exemple. Pourquoi ne pas les amener là-bas?
Ce qui est vrai, il y a un problème particulier. Tous les enfants n'aiment pas aller dans des centres. C'est comme ça que vous écoutez là-bas, il y a de ces enfants qui préfèrent une maison familiale qu'un centre où ils sont soumis à des règles, l'heure de se réveiller, de dormir, et d'autres n'aiment pas. Nous, on s'est dit que cette méthode qui est aussi bonne parce qu'il y a de ces enfants qui sont très bien pris en charge là-bas, mais d'autres, il faut s'adapter dans leur situation, mais pour améliorer leurs conditions. Ceux qui accepteraient d'aller en Saint-Laurent, nous avons le devoir de les accompagner. Nous, notre travail, c'est d'identifier, de sensibiliser, de conscientiser et d'orienter la réinsertion. Si ça peut passer par un centre, ok, parce qu'il y a de ces enfants-là qui n'ont plus rien comme parents. Mais pour d'autres, l'insertion familiale est encore possible, on peut faciliter ces côtés-là. Mais ce qui est vrai, la plupart des cas, de manière générale, c'est la pauvreté extrême de certaines familles, mais surtout la perte de leurs parents.
Votre activité de séjour coïncide avec la fête nationale de l'armée. Y a-t-il un lien entre les enfants de la rue et l'armée?
Oui, oui. En ce jour, nous célébrons la bravoure de nos vaillants FRDC qui, chaque jour, ils mettent justement en épreuve leur vie. Nous avons dit, de la libération de ces pays, on doit libérer les droits des enfants. Il faut libérer les enfants. Libérer suppose qu'on leur retourne leur enfance. Libérer ces enfants, c'est qu'on doit leur trouver l'éducation qui convient. Les soins de santé. Aujourd'hui, on interpelle les niveaux local, la ville, la mairie, la commune, le gouvernement provincial, le gouvernement central, pour dire qu'il y a une couche qu'on néglige. Il y a les différents organes qui sont chargés de s'occuper des droits des enfants, de protection de l'enfant. Mais jusqu'à ce jour, ces organes ne marchent pas, ne fonctionnent pas, ne sont pas budgétisés. Et par conséquent, ces enfants, il y a des fonds pour eux, mais ils ne sont pas bénéficiaires de ça. C'est une interpellation aussi à des familles, à des individus de bonne foi, chaque fois chacun ce qui les concerne, de voir dans quelle mesure il faut secourir, assister ces enfants pour leur permettre que le meilleur soit pour eux demain et de manière définitive.
Professeur Grison Kakoumbi, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le directeur du laboratoire de la philosophie du droit de l'éducation et du numérique du département de philosophie à l'université de Kisangani, Unikis, répondait aux questions de Jacques Moukonkole. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta. Supervision d'Alain Rongouchinch, à la mise en onde d'Eps Vita. Merci d'avoir été des nôtres.